Bonsoir. Deuxième partie de ce débat spécial législatif sur la cinquième circonscription des Pyrénées-Atlantiques, la circonscription qui regroupe Bayonne, Boucau, Anglet, qui va jusqu'à Bidache et la Bastide-Clérance. En l'absence de la représentante de Lutte ouvrière, sa formation a décliné notre invitation. Avec nous, sur ce plateau, à l'auditorium de la CCI, où nous nous trouvons, Stéphane Bernard, de l'économie basée sur les ressources transition, Alexa Hilaire, de l'Alliance écologique indépendante, Pascal Le Cellier, qui représente le mouvement Debout la République, Jean-Baptiste Mortalena, candidat sans étiquette, Serge Noguès, du nouveau parti anticapitaliste, et Chantal Renoux, du Front National.
Législative 2012, le grand débat sur France Bleu Pays Basque avec France 3 et Euskal Herri et Sud-Ouest.
On commence avec vous, Stéphane Bernard, c'est le tirage au sort qui vous a désigné. On va vous poser une question, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'économie basée sur les ressources, transition EBRT, c'est le sigle de votre mouvement?
Oui, bonsoir. Alors, dans un premier temps, nous ne sommes pas un parti, nous sommes une association de fait non statutaire. Et nous essayons de réfléchir sur ce qui pourrait être un nouveau mode de société basé non pas sur un système monétaire fractionnaire, mais sur une absence totale de monnaie. Nous réfléchissons sur le fait de passer d'une société d'échange à une société de partage. Et pour cela, nous essayons de réfléchir sur une transition. Je suis aujourd'hui là pas pour vous parler d'une économie basée sur les ressources et de la monétarisme, mais je suis là pour vous expliquer, éventuellement, si j'ai le temps, ça me paraît très court, vu l'exercice du genre, on essaiera de s'y plier, ce que pourrait être la transition vers une économie basée sur les ressources.
Sans argent, sans monnaie, sans billets.
Alors,
sans
la transition est avec, l'argent, mais avec une réappropriation de notre monnaie. Et avec plus de 180 propositions qui sont mises à disposition des gens pour la réflexion, mais aussi, si un jour il y a possibilité d'arriver vers une véritable forme de démocratie, mise à la disposition du citoyen pour qu'il puisse passer du mode d'électeur au vraiment à un mode de citoyen actif, c'est par une consultation permanente.
N'êtes-vous pas le plus bel utopiste du plateau ?
Ben, je crois que l'utopie est peut-être de croire aujourd'hui qu'en injectant plus de 100 ou 200 ou 300 milliards dans un système financier qui nous mène à notre perte, c'est plutôt ça l'utopie. Je crois que l'utopie, c'est de croire qu'on peut continuer dans un mode et un système qui permet qu'en une demi-année, on utilise toutes les ressources planétaires. L'utopie, je crois que c'est aussi de penser que nos élus actuels ne sont pas empreints de conflits d'intérêts. Je crois que c'est plutôt ça l'utopie.
On ne peut pas en tout cas suspecter le fait que vous cherchiez de l'argent puisque vous êtes très peu de candidats en France et que donc vous n'allez pas viser le 1,65€ par an et pour 5 ans en vous présentant cette fois-ci.
Alors, en ce qui concerne...
Vous êtes combien, deux en France ?
On est deux en France. Il y a un marginal qui se présente sous une étiquette votée AM, AM comme après-monnaie, dans la troisième circonscription du Rhône. Et pour répondre à votre question... à titre personnel, je fais une campagne à 0€. Mes bulletins de vote sont à télécharger sur le site de campagne.
Vous achetez des ordinateurs quand même?
Bien entendu.
Et donc, il faut les payer?
Non, mais si on part comme ça, moi, ce que je vais vous demander, monsieur, c'est éventuellement de réfléchir autrement. C'est-à-dire que vous êtes dans une proposition qui est à l'intérieur d'un système, alors que nous, on essaye de vous expliquer qu'il peut y avoir d'autres solutions. À ce titre, puisque vous parlez d'argent, les coordinateurs, c'est comme ça qu'on préfère les appeler plutôt que les élus, sont des gens non rémunérés dans notre système de transition. Il y a une monnaie, il n'y a pas de cumul de mandat, on interdit le non-renouvellement au même poste, on interdit bien sûr la possibilité d'avoir une immunité diplomatique, juridique, et on interdit aussi à titre pénal la possibilité d'avoir des moyens de prescription quand il y a conflit d'intérêts.
Alors on va réfléchir avec vous dans une minute sur les dossiers de l'emploi et des transports. Richard Picotin, Journal Sud-Ouest.
Oui, une question pour Stéphane Bernard. Tout ce débat doit vous atterrer. Quel regard vous portez sur...
Il est très instructif et en plus...
Et tout cet argent qui circule là, c'est terrible.
Non, mais... Non, je crois que, vous me feriez plaisir, bien sûr, de ne pas être poli avec moi parce que ça me fera réagir, mais vous me ferez plaisir aussi d'avoir la grâce et l'a priori de savoir ce dont on parle. Comme vous pouvez le voir, c'est à la radio, mais j'ai pas de cheveux, donc je suis pas un joli utopiste échevelé qui s'écoute justement les pousser au milieu d'un champ. Et en ce qui concerne l'emploi, tout ce qui est dit jusqu'à présent est très bien, mais je pense qu'il y a, il y a un manque de vision. Il y a un manque de vision générale, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, les salariés sont non égalitaires dans leur statut, donc c'est quelque chose qui semble déjà aberrant.
Stéphane Bernard, si on supprime la monnaie, on supprime une motivation, une des motivations principales
alors,
de l'emploi.
Je vais recommencer le préambule. Le préambule, je ne suis pas pour parler de la monétarisme. Je suis ici pour vous expliquer qu'il peut y avoir une transition.
C'est le nom de votre candidature, l'économie basée sur les ressources. Donc,
transitoire.
Transitoire.
Voilà. Donc, en ce qui concerne la transition, puisque si vous voulez vous intéresser à l'économie basée sur les ressources, il vous suffit de taper sur Google, votre meilleur ami EBR, et vous aurez des réponses à vos questions.
Ah ben vous en profitez là, c'est bien.
Ben, oui, effectivement. Oui, mais alors, en ce qui concerne l'emploi, je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus transversal et qu'il faut avoir une vision globale. C'est-à-dire que dans le modèle de société que nous présentons, j'aurais pas le temps de parler de la réappropriation de la monnaie, de la sortie du système monétaire fractionnaire, mais il y a des pôles qui sont très importants, qui sont liés à la fois, vous disiez, tout le monde est écologiste, sauf que l'écologiste brade vite contre un poste gouvernemental, visiblement. Ce que l'on peut voir, c'est que dans une vraie société qui se respecte, il y a des pôles prioritaires. Les pôles prioritaires, c'est l'éducation. Les pôles prioritaires, c'est une agriculture saine et respectueuse de l'environnement. Les pôles prioritaires, c'est la santé. Les pôles prioritaires, c'est l'énergie. Bref, des principes fondamentaux sur lesquels on a oublié justement tous nos fondamentaux.
Mais c'est un peu un générateur d'emploi. C'est un discours que disent tous les politiques, ça, qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation, la santé.
Oui, mais alors je vais pas vous énumérer, j'ai 180 propositions, mais bon, comment créer de l'emploi dans l'éducation? Bah déjà, à mon avis, je crois qu'on peut commencer l'éducation des enfants à partir de la crèche, et je crois que la crèche doit être intégrée dans l'éducation nationale, et qu'on doit obliger les enfants à aller à l'école jusqu'à 18 ans. On doit faire l'éducation gratuite jusque pendant toute la durée. On doit intégrer des éducateurs spécialisés. En ce qui concerne l'agriculture, on doit arrêter notre modèle qui est sorti de la révolution verte, qui nous a, excusez-moi du terme, pourri la planète. À aujourd'hui, on a des nappes phréatiques polluées, des pesticides à non plus finir, un cordon ombilical contient 200 produits toxiques. Si on change pas ce modèle-là, on va tout droit à notre perte. Donc on n'est pas des utopistes. C'est générateur d'emplois. Refaire une agriculture locale qui se base sur des sciences telles que l'agrologie, telles que la permaculture, le respect d'un équilibre dans lequel nous devons être fondamentalement intégrés, puisque nous avons, nous, êtres humains, cette condescendance vis-à-vis de notre milieu. Le discours de madame sur les animaux est intéressant, parce que effectivement, on traite nos animaux comme on traite nos concitoyens, et on oublie à un moment que dans l'autre, il y a un peu de chacun de nous.
Stéphane Bernard, parmi vos 182 propositions, il y en a qui concernent les transports, j'imagine.
Oui, on a une approche des transports qui est double. La première, elle est environnementale, et à égalité, c'est aussi pour nous un service public. Donc le partenariat privé-public serait supprimé, la gratuité des transports serait totale, y compris pour le fret et les marchandises. On fait un moratoire sur la totalité.
Gratuité des transports pour le fret ?
Oui, aussi, oui, parce qu'il faut choisir, à un moment, je crois, bon, je peux pas développer, donc c'est compliqué.
Non, mais c'est intéressant, c'est peut-être inattendu, mais c'est intéressant.
Oui, mais il y a plein de choses inattendues dans le programme de l'EBRT, des fois qui peuvent paraître contradictoires, mais qui sont aussi importantes, par
gratuité,
exemple.
Gratuité, ça veut dire un modèle économique à inventer autour de ça, parce que là, comment vont vivre les gens qui ont besoin de qui transportent?
Mais il y a plein de secteurs d'emploi qui sont inoccupés, si on veut essayer de les développer, comme l'énergie, l'agriculture, y compris les transports. Faire la gratuité des transports, ça veut pas dire construire de nouveaux aéroports, de nouvelles lignes de bus, et bien entendu des nouvelles lignes de LGV contre lesquelles on s'oppose complètement. Il s'agit d'optimiser techniquement et en termes de fréquence les transports déjà existants.
En tout cas, vous avez étudié, c'est possible pour vous de rendre les transports gratuits?
Mais bien sûr que c'est possible.
Pourquoi ce serait pas possible? Qu'est-ce qui vous empêche de rendre les transports gratuits? L'argent?
Parce qu'on vit dans une société où les services...
Non, je crois pas. Excusez-moi, je pense qu'on a le modèle a été complètement perverti et qu'à aujourd'hui, on oublie que les nappes phréatiques appartiennent à tout le monde, que le transport est un service public comme l'éducation. Et à ce titre, on ne doit pas le confier à des intérêts privés ou de profits. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas un problème de financement, puisque quand il faut sauver Dexia, on trouve 90 millions en 15 jours, alors qu'on a refusé 30 millions à 2,5 millions de personnes dans les rues pour les retraites. Donc il y a un moment, il faut faire des priorités. Et à ce titre-là, on garderait les taxes de péage sur autoroute, on ne ferait pas les gratuités pour les transports en aviation, qui sont des transports extrêmement polluants, et on essaierait de développer les nouvelles technologies comme le Maglab, etc. Il faut comprendre qu'à un moment... Toutes les choses sont en interaction et sont croisées. Et qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ce modèle-là sans faire des choix radicaux. Donc il va falloir faire des choix. À quoi ça sert de simplement, par exemple, un exemple tout bête sur les transports, pourquoi on continue à mettre des radars sur les routes alors qu'il suffirait simplement d'interdire aux constructeurs d'avoir des véhicules qui roulent plus vite? Bon, donc... Si ce n'était pas pour le profit des intérêts des gens qui ont en gestion les autoroutes, il n'y aurait pas de problème. Voilà, c'est juste une question de lobby, de conflit d'intérêts, et c'est juste une question, à un certain moment, de faire un choix pour le bien de la collectivité publique et de l'environnement dans lequel on est issu et sur lequel, si ça continue, on ne va pas rester longtemps.
Merci Stéphane Bernard. Avant vos conclusions, on va passer à la dernière partie de ce débat avec les questions individuelles.
Législative 2012. Le grand débat France Bleu Pays Basque en partenariat avec France 3 Échoualerie et Sud-Ouest. Vicente Vrignon.
Je rappelle la règle du jeu, elle est la même que pour le plateau précédent, des questions qui s'adressent à chacun, chacune d'entre vous. Une dernière question pour Stéphane Bernard.
Je ne sais pas si je dois la poser, mais je vais la poser. Votre affaire, c'est une affaire familiale, une petite PME familiale, puisque votre suppléante, c'est madame?
Non, c'est ma sœur.
Ah ben voilà.
Oui. Non, pour répondre à votre question indirecte qui en suggère deux, trois autres derrière, donc on va juste arrêter derrière. La personnification est sans importance en ce qui concerne notre mouvement. Donc l'important aujourd'hui n'est pas de savoir si on va avoir des voix ou pas, puisque de toute façon, même si jamais on en avait, on ne toucherait pas d'argent, et si on en avait de l'argent touché, de toute façon, on ne l'utiliserait pas. Donc l'important, c'est juste de sensibiliser les gens et de leur faire réfléchir à cette transition.
Comme pour le dernier plateau, je vous suggère juste un dernier mot, un dernier slogan pour vous adresser directement aux électeurs. Stéphane Bernard, le mot de la fin pour vous. Allez-y, c'est en silence juste le mot de la fin ou...
Non, pas du tout, j'essaie d'applaudir monsieur jusqu'au bout, je suis poli. Simplement, vous avez quelque part dans votre vie, à un moment ou un autre, dans le secteur d'activité, dans votre vie familiale, une petite indignation, allez sur le site brt.org et nous avons les solutions à votre indignation.
Merci à vous tous d'être venus.